Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de méditer aujourd'hui à partir de l'évangile que nous entendrons dimanche prochain. Il s'agit d'un extrait de l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, les versets 17 à 27. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et l'homme riche qui veut avoir la vie éternelle en héritage. Mais commençons par écouter le texte. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut, et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Fin de la lecture. Cet épisode nous présente les dangers de la richesse. En effet, cet homme de bien, cet homme qui a un désir véritable de vie éternelle, se rend compte qu'il est incapable de suivre le Christ, car il ne veut pas se départir de ses biens. La possession de ses biens se présente comme un obstacle à la liberté de suivre le Christ. Car vous l'avez remarqué, quand Jésus l'invite à vendre tous ses biens, l'objectif principal n'est pas d'avoir un trésor dans le ciel, mais de pouvoir le suivre. « Viens, suis-moi, » lui disait Jésus. Il apparaît donc que les richesses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais en tant qu'elles font perdre la liberté de suivre le Christ. Je vous propose de regarder cinq aspects du danger des richesses qui s'oppose à la suite du Christ. Le premier danger que les richesses peuvent représenter, c'est celui de nous encombrer l'esprit. Voilà que désormais notre esprit est encombré, préoccupé, saturé par la gestion des multiples biens qui sont en notre possession. C'est l'entretien d'une propriété, sa gestion administrative, le suivi des travaux. On finit par avoir l'esprit et le cœur possédés par les soucis de la gestion des biens que nous serions censés posséder. Finalement, c'est eux qui nous possèdent. C'est le premier danger. Je n'ai plus le temps de présence, la disponibilité pour les autres, car la gestion de mes biens, la valorisation de mes biens, la défense de mes biens pompe toute mon énergie. Premier danger. Au contraire, chez Jésus, tout au long de son ministère, il y a une disponibilité pour ceux qui s'approchent. Le deuxième danger que l'on peut relever, c'est celui d'avoir l'impression que l'on est tout puissant. Lorsque je dispose de grandes richesses, j'ai l'impression que je peux tout faire d'une certaine manière. On surnomme parfois l'argent le dieu polymorphe. parce que l'argent peut se transformer en une voiture si je le désire, se transformer en bon repas si je le désire, il peut se transformer en voyage si je le désire. Il semble d'une certaine manière qu'il puisse prendre la forme de tous les désirs qui peuvent me traverser l'esprit. Cette puissance peut me faire oublier ma fragilité humaine. J'avais l'impression que tout dépendait de ma main, tout dépendait de mon désir. Mais vous vous souvenez de cette parole de Jésus au sujet d'un homme qui orientait toute sa vie à construire de gigantesques greniers pour y stocker sa richesse. Insensé, disait-il, cette nuit même on te redemande ta vie et ton bien. Qui l'aura ? Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il y perd sa vie ? L'homme recroquevillé sur sa puissance, qui se croit autosuffisant, n'apprend pas à se tourner vers le Père. Jésus, à l'inverse, est tout tourné vers le Père. Et c'est ça qui lui donne la grande liberté de pouvoir aimer, jusqu'à faire le don total de sa vie, parce qu'il est dans les mains du Père, il a confiance qu'il est dans les mains du Père. La puissance de la richesse peut me faire oublier ma fragilité et m'empêcher de rencontrer le Père provident. Troisième danger qui peut aller avec la richesse, c'est celui de l'avarice. Alors que la cupidité, c'est un appétit qui veut toujours accumuler plus et plus, l'avarice est la propension à tout conserver. Je ne redonne rien, je ne partage rien. Et finalement, j'immobilise en surplus des ressources qui auraient pu être nécessaires à la vie des autres. Il y a une richesse qui, conservant tout ce qu'elle a accumulé, empêche les autres hommes de vivre. Saint Grégoire le Grand disait « Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. » Derrière cela, il y a cette idée que les biens de la création ont été donnés par Dieu pour que tous les hommes puissent en vivre. Et si l'accumulation par certains empêche les hommes de vivre, de trouver leur subsistance, alors cette accumulation devient injuste. Notons que ce n'est pas le fait de posséder qui est remis en cause, mais le fait de ne pas mettre à disposition des autres, car il y a une juste possession des biens qui permet à d'autres d'en profiter aussi. Ainsi, il y a un bon usage de la richesse qui permet à d'autres d'en profiter. Je ne perds pas la propriété, mais je prête volontiers. Ce partage des biens que l'on possède est profondément ancré dans ce que vit le Christ. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, au verset 9, je cite « Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Fin de la citation. Le Verbe de Dieu s'est fait chair pour que nous soyons faits fils de Dieu. Il a pris notre humanité pour que nous puissions participer à sa divinité. C'était le troisième danger, l'immobilisation des ressources en surplus qui auraient pu être nécessaires à la vie des autres. Quatrième danger des richesses, gaspiller les biens de la création sous prétexte qu'on a les moyens d'en acheter d'autres. C'est un peu l'idée que l'on peut user et abuser de ce que l'on possède. Alors que Dieu avait fait l'homme, au commencement, intendant de la création. Il lui confie vraiment toute la création, mais il doit en rendre compte. Elle lui est vraiment donnée pour qu'il en vive, mais aussi pour qu'il la transmette aux autres, à ses frères en humanité et à ses descendants, aux générations futures. Il y a un gaspillage égoïste qui contredit cette vocation, cette mission d'intendant. Le Christ lui-même vit cette transmission lorsqu'il dit, voilà, « Tout ce que mon Père m'a fait connaître, je vous l'ai transmis. » Il y a cependant un cinquième danger qui peut nous surprendre, car ce danger est à la fois lié à la richesse et en même temps c'est un danger de la richesse qui menace celui qui ne possède pas forcément grand-chose. Je reconnais, l'introduction est un peu mystérieuse. J'éclaircis mon propos. Il y a une façon de nous comporter en mauvais riches lorsque nous ne prenons pas soin du bien d'autrui qui nous a été confié. Il y a une offense à la pauvreté évangélique lorsque nous sommes négligents avec ce qui nous a été confié, sous prétexte que justement ce n'est pas à nous et que celui qui nous l'a prêté peut-être a bien les moyens de remplacer ce dont nous ne prenons pas soin. Ce cinquième danger mérite cependant d'être relevé, car il est peut-être celui auquel sont le plus confrontés les enfants. En effet, en eux-mêmes, ils ne possèdent pas encore grand-chose. Ce dont ils disposent appartient généralement à leurs parents, et du coup, ils peuvent se penser encore non concernés par cet enseignement de Jésus. Or, Jésus ne se montre pas négligent. Vous vous rappelez cette parole dans l'évangile de saint Jean, « Je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a confiés, à part le fils de la perdition. » Il parlait de Judas qui a choisi librement de le trahir. Ce cinquième danger est considéré comme un danger de la richesse parce qu'il dispose tellement des biens qu'il se permet de ne pas en connaître la valeur, de ne pas se préoccuper de leur valeur. Et donc il n'en prend pas soin, il n'en tient aucun compte. Que cette réflexion autour du danger des richesses nous aide à nous positionner avec justesse, avec justice par rapport au bien de la terre. Que nous sachions y trouver notre subsistance à travers le fruit de notre activité, de notre travail, de nos efforts. Que ces biens de la terre soient aussi un motif d'émerveillement devant ce qu'il nous offre et d'action de grâce pour Dieu, lui qui est la source de ces biens dont nous profitons. Que ces biens soient aussi un moyen pour faire le bien autour de nous, ne serait-ce qu'en partageant l'usage de ce qui nous est confié. Que nous ayons à cœur de vivre non pas dans une espèce d'autonomie autarcique, mais dans une interdépendance, où nous faisons profiter les uns et les autres de ce dont nous sommes riches. Que nous ayons à cœur enfin de prendre soin de ce qui nous est confié. Je vous souhaite de bons échanges.